nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Rien à voir, c'est sale. Les gens ne sont pas très agréables et semblent plus à des Turcs qu'à des Athéniens de leur livre scolaire. Il lui dit,
il faudra bien que vous ouvriez votre porte. Non, elle est rouge de honte. Parlez de ça en pleine rue. Il lui dit, cela fait un mois que vous ne me laissez pas entrer dans votre chambre. C'est très désagréable pour moi. Dites-moi au moins pourquoi.
Ne lui dit rien. Il lui dit,
je vous aime. J'ai besoin, c'est de m'exprimer de cette façon. Et puis il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on ait des enfants. Non?
Elle souffre. Il souffre lui aussi et dit,
et puis ce pays me fatigue, j'ai besoin de calme, parlez-moi, que vous ai-je fait, me suis-je comporté avec vous?
Il a les larmes aux yeux et lui dit,
non.
Alors
elle lui dit, je ne peux pas, pourquoi? Je n'ai rien fait. Dites-moi pourquoi. Je vous en prie.
Elle lui dit,
ici? Oui, puisque votre chambre m'est interdite.
Alors?
Elle lui dit, il n'y a rien. Je ne peux pas. Elle lui dit, je vous aime.
Et je le veux.
Elle lui demande, vous iriez
jusqu'à la forcer, forcer ma chambre. Il ne lui dit rien. Puis il demande, vous m'aimez? Elle lui dit, oui, à ma façon. Oui, je vous aime. Il lui dit, elle est folle et je l'aime. Puis il ne parle plus de ça. Le soir, il lui dit « Bonne nuit, bonne nuit. » Et ils entrent dans leur chambre. Elle a fermé la porte de sa chambre à clé et se prépare pour la nuit. Demi-heure plus tard, elle est au lit. On frappe à la porte. Oui, c'est moi. Je peux entrer? Elle lui dit. Non. Pourquoi? Je suis ton mari. Il est furieux. Et en plus, il en manque. Vois que la porte est fermée à clé. Ça l'énerve. Ça le met encore plus en fureur. Furieux. Il prend son élan et de tout son corps, il cogne la porte. Cogne la porte. Fois. La serrure est cédée. La porte est ouverte. Elle est dans son lit, tremblant. Il court au lit. La découvre. Et lui dit, je suis ton mari. Et se plaque contre elle. Il est fou de rage. Elle se débat. Elle cherche à sortir de son emprise. Veut crier. Et crie. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Je suis ton mari. Arrête. Je suis ton mari. Et lui arrache sa chemise de nuit. Et s'allonge de tout son poids sur elle. Il ne bouge plus. Elle non plus. Fou d'amour et de désir. Elle décide de laisser faire la chose. Oui, de laisser faire la chose sans réagir.
Lui, papa, autant eu de plaisir. Est-ce qu'il la voit inerte? Et non à l'unisson. Avec lui. Ça le dégoûte. Il se redresse d'un bond. Casse. Se lève. Se range. Et sort de la pièce. Elle reste essoufflée, apeurée, ne sachant que faire. Passe la nuit essoufflée. Au petit matin, elle n'a pas bougé. Elle attend. Oui, au petit matin, elle n'a pas bougé. Elle attend. Se dit que la fidélité à Luc, elle la paye très cher. Mais c'est son calvaire. Et c'est sa nature aussi. Georges va devenir son ennemi. Dans la matinée, on frappe à la porte. Oui, c'est la bonne. Madame, monsieur demande que vous veniez prendre votre petit déjeuner au salon. Elle lui dit, bien, je me prépare. Elle est inquiète, mais elle doit y aller. Se lève. Dans la nuit, il a pensé à tout ça en faisant les 100 pas dans sa chambre. Il se dit, si elle est comme ça, c'est qu'elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'aimera jamais. Ça lui fait mal, parce qu'il l'aime, lui. Il se dit qu'elle doit aimer encore ce Luc. Je vais vivre auprès d'une femme qui ne m'aime pas. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il a envie de la gifler. En acceptant de se marier avec lui. Elle a fait son malheur. Lui, qu'il aime, la garce. Sa vie est perdue maintenant. Il aura près de lui une femme qui ne l'aime pas. J'aime la femme. Et qui ne m'aime pas. Je vais vivre avec la femme
qui ne m'aime pas, ou je vais la renier. Mais hélas, c'est impossible. Toute la nuit, il pense comme ça. Pris entre sa fureur et son amour pour elle. Son mariage est raté. Puis au petit matin, il se souvient de ce qu'a dit le prêtre. Aidez à vous aimer en se servant de la fiole, en vous rendant indispensable, et ceci grâce à cette drogue que détient cette fiole. Elle détend et rend la vie plus agréable, détendue. Permet plus facilement les anxieux d'être heureux. Et vous, petit à petit, elle ne pourra plus se passer de vous, parce que vous représenteriez pour elle le bonheur, le calme. Sans vous, la vie sera en enfer. Car elle saura bien que grâce à cette fiole, puis petit à petit, grâce à cette fiole, elle vous aimera pour de vrai. Il se dit, oui, je vais essayer, tant pis pour elle. Et si c'est du poison? Non, un prêtre n'aurait pas donné du poison. La plante aide à détendre la personne et rien d'autre. Il a le flacon chez lui au château. Il aurait dû l'amener en voyage. Oui, il aurait dû l'amener en voyage. Il va au salon. Lorsqu'elle entre au salon, elle est inquiète et misérable. En la voyant entrer, il lui dit, venez vous asseoir. Elle va s'asseoir en face de lui. Je m'excuse pour hier au soir. Ça ne se reproduira plus. Et vous devez l'oublier. Je crois que l'on ferait mieux de rentrer au château. Vous pourrez vous y reposer. Et moi, reprendre mes occupations. Je t'aime. Mais peut-être que serait que nous nous sommes trompés tous les deux. Nous n'aurions pas dû nous marier. Elle ne dit rien. Il lui dit, de toute façon, la chose est faite. Alors continuons à vivre et à faire bonne figure devant le monde.
Surtout, ne dites rien à votre frère. »
Elle lui dit,
« Je te le promets. » Il se dit que bien sûr, elle ne dira rien à Franck. Elle lui demande, « Nous partons quand ?» Elle lui dit, « Il serait peut-être bien de partir le plus tôt possible. Je suis déçu par ce pays. Il ne reste plus grand-chose de sa beauté d'antan. »
Elle lui dit, « C'est peut-être
à cause de notre humeur, mais tu as raison. Moi aussi, je suis heureuse de retourner chez moi. »
Et ils sont partis 2 jours plus tard. Le voyage se fait calmement. Il ne cherche plus à aller dans sa chambre.
Nous verrons un autre retour.
Après des jours de voyage, tout de même pénible, ils arrivent au château Ventoux, heureux d'être de retour. Les premiers jours se passent à se reposer. Puis Georges va s'occuper de ses affaires. Il s'enferme des heures entières dans son bureau, lit le courrier et écrit des lettres. Pendant ce temps, Hilde, pour jouer la bonne maîtresse de maison avec les domestiques, elle visite le château et donne des ordres pour le nettoyage. Nettoyage avant l'hiver, donc il faut faire le plus de choses possible. Elle avait l'habitude de tenir une maison parce qu'elle vivait seule avec son frère. Là, c'est pas la même chose. Il y a des domestiques. C'est plus simple pour certaines choses et plus compliqué pour d'autres parce qu'il faut donner des ordres et voir si c'est bien fait. Georges, après une semaine, dit à sa femme au dîner qu'ils prennent dans la salle à manger,
« Je vais partir à Paris. » Pour mes affaires. Je te demande pas de venir avec moi parce que je sais que tu es peut-être sûrement fatigué des voyages. »
Elle lui dit, « Je te remercie. Peut-être la prochaine fois. Mais
nous revenons dans nos voyages et puis j'ai donné des ordres pour la domesticité et je dois surveiller, rester pour surveiller. »
Elle se dit, comme ça, il verra que je suis une bonne maîtresse de maison. Lui préférerait qu'elle soit une bonne amante.
Une mande. Vous n'avez pas trop vous ennuyer ?
Elle lui dit.
Non, pas du tout.
Il est parti un peu tristement. Dès qu'il est parti, il décide de faire de longues marches, de longues courses à cheval. Oui, elle fait de longues courses à cheval. Ça lui manquait. Et en plus, elle se dit que peut-être elle reverra Luc. Elle court dans la campagne, retrouve le vent claquant sur son visage. Les grands espaces, ça lui fait du bien. Le soir, elle revient, les joues en feu, rompue, va à sa chambre pour se changer, parce qu'elle a une belle tenue de cheval. Et va au salon, au coin du feu, en attendant l'heure du dîner. Le matin, elle s'occupe des domestiques. Les journées semblent bien remplies. Mais après une journée,
où elle a chevauché. Une fois dans son lit, elle est triste de ne pas avoir perçu Luc. Elle se demande où il est. Oui, où est Luc? Les marais, c'est grand, dangereux. Elle y va un peu, mais n'ose pas s'y aventurer, de peur de s'y perdre. Son mari lui écrit tous les deux jours. Il parle de son travail, de la vie parisienne, et lui dit que les affaires vont bon train, que la bourse grimpe, que la France est devenue la première puissance du monde avant l'Angleterre. Les Prussiens nous regardent avec envie, l'Autriche nous craint. Il lui demande aussi si elle a besoin de rien. Elle aussi lui écrit le soir dans sa chambre avant de s'endormir. Elle lui écrit sur le château, les animaux, les courses folles à cheval. Elle lui parle de tout et de rien, comme d'un écureuil qu'elle voit chaque matin dans le parc, aller d'arbre en arbre. Elle lui dit son affection, mais d'une façon bien sage et respectueuse. Lorsqu'il lit ses lettres, il est heureux parce qu'il lui semble qu'elle l'aime. La nouvelle ne s'est pas répandue qu'ils étaient de retour. Les gens pensent qu'ils sont toujours de voyage, en voyage. Donc, elle n'a pas de nouvelles et les gens ne viennent pas la voir. Ça l'arrange parce qu'elle n'aime pas les gens, ou plutôt, elle aime être seule. Les jours passent. Georges est obligé de rester un peu plus longtemps que prévu à Paris à cause de ses affaires. Un après-midi, elle décide d'aller voir son frère à la ferme. Ça fait une éternité qu'elle ne l'a pas vu. Donc, elle y va. Elle est partie pour l'après-midi parce que c'est assez loin et arrive vers les 15 heures. Le château n'a pas changé, ni ce qui l'entoure. Elle descend de cheval. Un chien accourt à elle et aboie. La porte de la maison vient de s'ouvrir et apparaît son frère. Toujours aussi jeune et beau, mais sale, les cheveux longs en broussailles, les vêtements tachés et déchirés, son pantalon velours marron est trop court pour lui. Il a des sabots, les chemises qui étaient blanches et déchirées, tachées et ouvertes. J'ai une surprise de le voir comme ça. Tiens, petite sœur. Oui, bonjour. Je te dérange pas? Il lui dit, non. Pourquoi est-ce que tu me dérangerais? Vaël l'embrasse. Elle lui dit, mais pourquoi es-tu comme ça? On dirait un paysan. Il lui dit, c'est ce que voulait
Notre père, non ? Elle lui fait. Mais tu as bu ? Oh, si peu. Viens, entrons.
Il le suit.
Rentre au château et vont dans la pièce qui était un salon. Pièce est mal tenue, sale. Il y a des bouteilles de partout. La table a des restes de repas. Des poules qui pécurent le sol. Il lui dit, assieds-toi. Elle s'assoit dégoûtée. Tu bois quelque chose? Elle lui dit, je sais pas. Il lui dit, tu veux pas faire la pavèche? Allez, un verre de vin de nos vies. Et la serre. Avec un verre qui traîne sur la table qu'elle servit plusieurs fois. Ça la dégoûte. Mais elle ne peut rien dire. Allez, fais pas ta mijaurée. Bois. Ils boivent en silence. Il lui demande, t'es déjà de retour? Elle lui dit, oui, et déjà depuis quelques jours. Il lui dit, ça a été rapide le voyage de noces. Il lui dit, oui, et un peu triste. Comment ça? Elle soupire et lui dit, Georges est bien gentil, mais je ne l'aime pas. Enfin, tu le sais, mais c'est pour toi que je me suis marié. C'est toi qui l'as voulu, ce mariage. Il lui dit, oui, mais je suis sûr que ça marchera. Elle lui demande, et toi? Il lui dit, depuis ton départ, j'ai pas terminé les travaux du château. Alors je vis comme ça. Et puis je vais faire des changements à l'intérieur. Tu verras. Ce sera mieux. Mais je me trouve seule. C'est difficile. Elle lui demande. Je croyais que tu cherchais à te marier. Il lui dit. J'ai trouvé personne. Et puis chaque fois que je trouve une jeune fille, je la compare à toi. Elle lui dit. Mais que t'arrive-t-il ? Il lui dit, je sais pas. Peut-être. Je ferais bien de faire un voyage. Et toi, ton mari, il est à Paris pour les affaires. Alors tu es seul ? Oui. Tu as des nouvelles de Luc ? Il lui dit, tu penses encore à lui? Mais non, je n'ai pas de nouvelles. Il a dû partir loin. Un vagabond. Elle est triste. Lui dit. Et puis, tu as un mari? Oui, j'ai un mari. Mais si tu as des nouvelles, donne-les-moi. Et ton mari, il ne dira rien. Il lui dit, parle-moi de ton voyage. Il lui parle de son voyage, les pays qu'elle a vus. Il lui dit, et tu dis que c'était pas un beau voyage? Elle lui dit, si c'était un beau voyage. Mais c'était difficile pour moi parce que je n'aime pas Georges. Ben, je l'aime pas assez. Il lui dit, pourtant il est gentil. Elle lui fait « Pour ça, oui, il est gentil. Mais ça ne se fait pas tout. » Puis elle se lève. « Je dois m'en aller. » Parce que le trajet est long. Il lui demande « On se reverra ?» Elle lui dit « Oui, je reviendrai. Et nous resterons plus longtemps. Nous mangerons ensemble. Mais pas dans un endroit pareil. Nous irons manger dans un endroit mieux. » Il lui dit « T'es devenu pain bêche ?» Elle lui dit « Non, je suis toujours la même. C'est toi qui es devenu un vrai vagabond. » Il lui dit « Je croyais que c'est que tu aimais les vagabonds. » Il lui dit « Luc était propre. » Puis, elle est montée sur son cheval et partie. Il se dit tristement, elle a oublié de m'embrasser. La prochaine fois, je me laverai. Elle rentre au château, à la nuit, épuisée et triste. Son frère se laisse aller, va dans sa chambre se changer. On a frappé à la porte. Entrez. Et entre Georges. Elle est surprise, il va à elle. Elle est encore en tenue de cheval. Elle lui demande, tu es de retour? Tu es rentré quand? Il lui dit, il y a 3 heures. Où étais-tu? Elle lui dit, je suis allé voir mon frère. Et le trajet était long, c'est pour ça que je suis rentré à la nuit. Elle l'embrasse sur la joue. Et lui dit, je t'assure, je suis allé voir mon frère. Il se sentait un peu seul. Il lui dit, je te fais aucun reproche, tu es bien libre. Allez, change-toi, nous dînons. Et il la quitte. Mais avant de fermer la porte, il lui dit, je suis heureux de te revoir. Elle lui fait, moi aussi. Et elle se change. Elle se met une belle robe longue, beige, pour fêter son arrivée. Et lui dit, tu es superbe. Elle lui dit, c'est pour fêter ton retour. Et ils se mettent à table. Durant le dîner, il a parlé de ses affaires, de son voyage. Elle lui a parlé de sa journée. Après le repas, ils sont allés au salon prendre un verre. Elle a joué quelque chose au piano.
et comme ils sont tous deux fatigués, ils ont décidé c'est d'aller se coucher.
Avant d'entrer dans leur chambre, il lui a dit bonne nuit, mais il l'a pris dans ses bras et l'a embrassé. Puis, il est entré dans sa chambre. Une heure plus tard, elle est dans son lit. On frappe à la porte. Elle dit « Oui, c'est moi. Je peux entrer. » Elle sursaute à peur. Lui se dit comment va-t-elle réagir, et elle se dit comment va-t-il réagir. Alors elle lui dit non. Il lui dit tu peux rentrer une minute. Non, je ne peux pas. Bien ma chérie, bien, bonne nuit et repose-toi. Bonne nuit. Elle passe une mauvaise nuit en se demandant comment il va se comporter le lendemain matin. Le lendemain matin, elle se lève de mauvaise humeur. Une heure plus tard, elle va le retrouver au salon. Elle le retrouve à table, prêt à prendre son petit déjeuner. Viens t'asseoir, je t'attendais pour le petit déjeuner. Elle s'approche, il se lève, il lui donne un baiser sur la joue. T'as bien dormi. Oui, elle s'assoit. Ils se servent le café. Puis, après avoir bu, il lui dit « Je te trouve pas bien, pas lichonne et très nerveuse. À Paris, j'ai trouvé un remède très particulier. Il détend la personne, ça lui permet de passer une journée plus agréable. » Je me suis dit ce matin que ça te ferait du bien d'en prendre pendant quelque temps. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle lui dit, oui. Il lui dit, tu ne crains rien et c'est sans danger. Ce n'est pas vraiment une drogue. Il sort de sa poche le petit flacon avec un liquide rouge. Il lui dit, donne-moi ta tasse. Elle la lui donne. Il lui remet du café et quelques gouttes du liquide. boit. Elle prend la tasse et boit. Ça a un goût de café et ne sent rien. Il est un peu inquiet. Il se demande ce qui va se passer. Il reste près d'elle toute la journée. Petit à petit, elle se sent plus calme. Sa respiration est plus lente. Lorsqu'elle bouge, elle a l'impression de tourner, de planer. Ses yeux voient avec plus de relief, profondeur, et ses oreilles entendent comme des sons cristallins. Elle ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'elle est dans un état vague, à peine lent. Elle ne peut pas s'en rendre compte parce qu'elle n'est pas comme d'habitude. Pendant un moment, elle a envie de rire, de chanter. Elle voit Georges qui la voit drôlement. Elle lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien ?» Puis, petit à petit, elle se détend. Elle ne peut penser à rien. Elle reste des heures assise, sans bouger, bien. Et passe toute la journée comme ça. Le soir, avant d'aller se coucher, il lui demande « Ça va ?» Elle lui dit « Oui, ça va. Je peux entrer ?»« Je ne sais pas. » Il lui dit « Un peu, non ?» Elle se sent tellement détendue qu'elle le laisse entrer dans sa chambre. Tu ne te déshabilles pas, elle fait. J'y arrive pas bien. Attends, je vais t'aider. Et il l'aide à se déshabiller. Il met sa chemise de nuit. Merci, il lui dit, attends, je vais te détendre, mets-toi sur le ventre, je vais te masser le dos. Elle ne peut pas refuser. Le bien-être qu'elle sent l'empêche d'être elle-même et de vraiment décider. Alors elle se met sur le dos et il lui masse.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.